Merci Mehdi, qu'on retrouvera bien évidemment dans l'émission Mass ou Mass Amateur à partir de 13h. Il est 11h02, nous ferons donc un rappel du sommaire de cette édition, puisque nous parlerons déjà des émetteurs du Chan avec les premiers qualifiés. Nous aurons quelques surprises quand même, nous les évoquerons tout au long de l'émission. Nous ferons un bilan de l'année 2024 et nous nous rapporterons également, nous nous reposerons également sur l'information dans, ou l'actualité dans vos pays respectifs. Alors pour commencer, place à Boyko en Bénin avec Élisée Onkpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Amine Birouk et bienvenue au Bénin où il fait très chaud actuellement.
Il fait très chaud donc il faut se rapprocher de la plage. Allez, Cotonou ou Porto Novo, c'est mieux. Alors, ben oui, ou bien une bonne piscine. Non, chez nous c'est l'hiver donc il fait plutôt froid jusqu'à la mi-journée. Après ça se réchauffe un tout petit peu, mais dans les... Tu connais un peu le Maroc maintenant puisque tu as fait un mini tour du Maroc il y a 2 ans. Dans des villes comme Fès ou Ifrane, il va faire très froid, il peut même neiger s'il y a la possibilité. Allez,
voilà.
Allez, on va parler de Tchan, d'éliminatoire avec la qualification du Sénégal, celle attendue de la Guinée, mais il y a 2 surprises qui vont peut-être affecter la compétition. L'absence de la Côte d'Ivoire, avec ses 2 clubs qui sont engagés dans les compétitions continentales, je parle du Stade d'Abidjan et de la SEC, et surtout du Cameroun défait par la Centrafrique.
Oui, bien évidemment, puisque les Camerounais ont fait le plus dur, hein, en allant s'imposer 1-0 à l'extérieur, même si le match a été délocalisé du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Eh bien, les Camerounais qui quand même ont cru, hein, qu'ils pouvaient se qualifier pour ce Chan qui aura lieu dans 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie, puisqu'ils ont pris l'avantage, mais très vite ont été rejoints au score 1-0, et même en toute fin de rencontre, eh bien, les Camerounais ont même marqué un but entaché de hors-jeu, et puis dans la foulée, les Centrafricains, dans les toutes dernières secondes de cette chaude explication, puisque depuis un certain moment, eh bien, la Centrafrique joue même ses matchs à domicile au Cameroun, donc vous voyez donc, les Centrafricains aussi se sentaient à domicile, hein, même si le match se jouait au Cameroun. Donc, ils se sentaient à domicile au Cameroun. Donc, et en toute fin de rencontre, dans les toutes dernières secondes de cette chaude explication, eh bien, les Centrafricains ont marqué le but qui leur a permis de se qualifier pour une compétition africaine des nations, puisque c'est la première fois que la Centrafrique jouera une grande compétition de ce niveau-là. La Centrafrique n'a jamais pris part à une Coupe d'Afrique des nations, ni à un Chan, donc vous imaginez, donc c'est une première pour ce pays de se qualifier pour cette compétition en sortant bien sûr un grand pays du football sur le continent, c'est bien le Cameroun. L'autre déception, c'est bien sûr du côté de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'ont emporté 2-0 à domicile il y a une semaine du côté du Stade Félix Houphouët-Boigny. Eh bien, au match retour, le match ne s'est même pas déroulé du côté de Ouagadougou, puisque ça a été aussi un match délocalisé du côté de Bamako. Eh bien, les Burkinabés, comme un seul homme, ont refait rapidement leur retard 2-0. Et ce sont, ils étaient très bien en droit, hein, lors de la séance des tirs au but, puisqu'ils ont réussi à marquer, à être plus en droit que les Ivoiriens, ce qui leur a permis d'être qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Ivoiriens, 3e il y a de cela quelques années, ne participeront pas à cette Coupe d'Afrique des Nations. Une grosse déception pour ce pays-là qui a remporté récemment la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. C'est chez les seniors, chez les internationaux, puisque là, il s'agira de tous les joueurs qui évoluent dans le monde entier, puisque le Chan, c'est uniquement les joueurs qui évoluent dans les championnats nationaux sur le continent africain. Donc, c'est voilà la déception. Sinon, le Nigeria n'a pas tremblé devant le Ghana. Le Ghana qui peine toujours, qui s'engouffre dans la crise, puisque le pays ne s'est pas qualifié pour la dernière Coupe d'Afrique, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc, et ne s'est même pas qualifié pour le Chan qui aura lieu du côté de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya. La crise continue pour ce football qui continue pas dégringoler complètement. On se rappelle aussi d'un champion d'Afrique, l'Afrique du Sud, qui a remporté la CAN en 96 et puis en 98 finaliste et en 2000 demi-finaliste, en 2002 quart de finaliste, et puis après le pays a sombré complètement avant de se reprendre de nouveau. C'est ce qui se passe actuellement aussi du côté du Ghana, le football ghanéen qui sombre totalement, tant au niveau des sélections nationales, même et aussi au niveau des clubs. Donc, le Rwanda, il sera en écartant le Soudan du Sud. La Zambie aussi n'a pas tremblé devant le Mozambique. 3-0. Et vous avez parlé du Sénégal. Le Sénégal accroché 1-1 du côté de Libéria, a pris sa revanche en s'imposant sur la marque de 3-0. Très facile pour les Sénégalais. Et puis, le Niger, souvent présent pour ce championnat d'Afrique des Nations, eh bien, le Niger a éliminé le Togo 0-0 au match retour, 1-1 au match aller. Le but marqué à l'extérieur a penché du côté du MENA local. Eh bien, le Niger qui a vengé le Bénin, puisque le Togo avait éliminé le Bénin au tour précédent, eh bien, le Niger a écarté les Togolais pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Très belle affiche, très attendue également cet après-midi avec le derby de l'Afrique de l'Ouest entre le Mali et la Mauritanie. La Mauritanie qui l'avait emporté sur la plus petite des marques à l'aller, 1-0. Eh bien, les Maliens auront leur revanche. Il reste à savoir s'ils pourront passer de cette solide sélection mauritanienne. Il y aura également un derby de l'Afrique centrale entre la RDC et le Tchad. Le Tchad qui, dans ce pays actuellement, il y a les élections, les troisièmes élections sous ce nouveau régime. Donc, il y aura également un certain Congo-Guinée équatoriale dans cette zone centrale.
Et puis, il y a de très belles affiches. Alors, je rappelle juste que la RDC a battu le Tchad 3-1 hier. Donc, elle se qualifie aussi pour le Tchad. Alors, Élisée, on va faire un peu le bilan de l'année 2024 concernant ton pays, le Bénin. Le Bénin qui a retrouvé la CAN et qui sera au chapeau numéro 3.
Le Bénin qui a retrouvé la CAN après avoir manqué deux éditions de suite, l'édition camerounaise et puis l'édition ivoirienne. Ça a été très difficile, Amine Birouk, vous le savez, puisqu'il fallait aller chercher la qualification du côté de la Libye. Et au terme d'une rencontre très très difficile pour les Béninois, et 0-0, c'est le score qu'il fallait, puisque les Béninois se sont mis tout seuls en difficulté. Deux matchs où ils pouvaient déjà signer leur qualification contre le Rwanda et du côté de Kigali. Le Bénin menait 1-0 en première partie et s'est fait battre en seconde période 2-1. Le Bénin aussi qui menait le Nigeria 1-0 et qui pouvait même marquer jusqu'à 3-4 buts. Maladroit devant la surface, devant le but gardé par le gardien de but nigérien et bien en toute fin de match. Victor Osimhen a rétabli la parité, dont le Bénin s'est mis en difficulté tout seul, mais ça a été très difficile. La qualification est allée chercher du côté de la Libye. L'autre sensation, bien sûr, pour cette année de 2024, c'est bien sûr l'équipe masculine de handball du Flowers qui a dignement représenté le Bénin à la dernière Coupe d'Afrique des clubs champion, l'équipe de notre très cher patron de presse, il s'agit de Charles Tocor, qui a été aussi maire de Parakou dans le septentrion. Eh bien, Flowers est allé jusqu'en finale avant de se faire battre par la grande équipe d'Alali et de Caire. Donc, ce sont ces deux prestations que les Béninois ont connues lors de cette année de 2024. En tout cas, deux disciplines qui ont marqué l'année sportive du côté du Bénin. Le Bénin qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du côté de Maroc. Et puis, Flowers masculin qui est allé jusqu'en finale de la dernière Coupe d'Afrique des clubs champions. Voilà un peu ce qu'on peut retenir, Amine Birouk.
Merci infiniment, Élisée Onkpatine. On se retrouve en 2025, la semaine prochaine. Bonne année, meilleurs vœux, bonne fête, santé, bonheur et prospérité à tous nos amis sur le continent. On va bifurquer du côté de Bangui, ça va être très rapide parce que c'est une des sensations des éliminatoires du Tchad avec Christian Dota. Surprise pour la République centrafricaine qui a réussi à éliminer le Grand Cameroun. Une belle surprise et surtout la première présence à l'international de la Centrafrique depuis très très longtemps. Bonjour Christian.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs. Comme vous le dites, la République centrafricaine vient de réaliser un exploit en se qualifiant pour la prochaine CHAN. La victoire contre le Cameroun sur leur terrain de Bafoussam était inattendue par le public centrafricain et sur sa page Facebook. La Fédération centrafricaine de football a déclaré, je cite, « Une page historique s'écrit aujourd'hui pour le football centrafricain qui se hisse enfin parmi les grandes nations de football africain ». Fin de citation. Certes, il ne s'agit pas d'une qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, mais la fédération s'en réjouit tout de même. Amine, je vous parlais le dimanche dernier de Sébastien Gatto en indiquant qu'il s'agit d'un entraîneur expérimenté. Eh bien, Il vient de le prouver en déjouant tous les pronostics. Sébastien Gatto a déclaré qu'il suivait ses joueurs depuis 2021 après les deux précédentes chans ratées. Il compte poursuivre sur sa lancée car il ne reste plus qu'un mois de préparation avant de prendre la direction des pays hôtes de la chan 2025. Je note enfin que cette qualification ne connaît pas un grand engouement au sein du public centrafricain. Voilà tout pour ce que l'on peut dire en République centrafricaine. Merci Amine et à la semaine prochaine.
La semaine prochaine, un bel exploit de la République centrafricaine. On a vu les prémices lors des éliminatoires de la CAN et on a pu bien évidemment le constater. Avant de retrouver David Eyengue qui va nous parler de la déception du Cameroun, on va aller vers l'actualité. Et l'actualité, c'est ce match entre le Mali et la Mauritanie. Les Maliens sont dans l'obligation de renverser la vapeur après la défaite au match aller. Sinon, ils seront privés de chaîne pour la première fois depuis très longtemps. Drissa Diono, bonjour.
Bonjour Amir, bonjour à toutes et à tous.
Alors Drissa, victoire impérative par plus d'un but d'écart pour pouvoir voir le Chan et ne pas subir un camouflet face aux voisins mauritaniens.
Exactement, Amir Birouk, c'est toute la question. Est-ce que les aigles pourront-ils renverser la vapeur et s'imposer à domicile et se qualifier? Donc c'est toute la question que les uns et les autres se posent dans la mesure où bon, vous le connaissez sur le plan politique, le Mali est dans une confédération qu'on appelle AS. Le Niger a reçu ici à Bamako le Togo. Le Niger, donc avec ce match nul 0-0, le Niger s'est qualifié aux dépens du Togo. Hier, c'est le Burkina Faso qui a renversé la Côte d'Ivoire en s'imposant 2-0 et en égalisant, en faisant son retard et ensuite en remportant la contre tir au but 4-2. Donc après cette rencontre, tous ceux qui étaient au stade se posaient la question. Alors la balle est dans le camp des aigles locaux. Est-ce qu'ils pourront également se qualifier à domicile devant leurs supporters? En tout cas, pour l'instant, on ne connaît pas la réponse, mais c'est à partir de 16h au stade 26 mars. Il faut reconnaître qu'à l'aller, le Mali s'est incliné sur un score de 1-0 marqué à la 64e minute par la Mauritanie. Donc la Mauritanie qui débutera la rencontre avec cet avantage de 1-0. En tout cas, tous les regards seront braqués du côté du stade au 26 mars parce que ce match peut rappeler également un mauvais souvenir. En 2018, la Mauritanie était venue s'imposer à Bamako et empêcher le Mali de se qualifier pour les Chans. Est-ce que ce sera la même chose ou les aigles pourront également renverser? En tout cas, on ne connaît pas
les aigles finalistes en 2020, on le rappelle, contre le Maroc au Cameroun.
Tout à fait. Les aigles qui ont été finalistes en 2020, le Mali qui n'a jamais remporté ce tournoi non plus. En tout cas, s'il n'y a pas qualification, ce sera la deuxième fois, puisque en 2009, c'était le Sénégal qui avait empêché le Mali avant 2018. Et en tout cas, cette fois-ci, on ne connaît pas la réponse et on le saura à partir de 16h.
On le saura à partir de 16h locales, 17h chez nous. Est-ce que l'opinion publique est inquiète? Est-ce qu'il y a une mobilisation? Est-ce que ça se jouera à guichet fermé? Ou bien il y a un léger désintérêt par rapport à la compétition et par rapport aux joueurs locaux, les joueurs du Djoliba du stade malien, par exemple?
Exactement, il y a un léger désintéressement. Cela fait suite à la sélection concoctée par le sélectionneur qui n'avait pas plus énormément de supporters ici, estimant que le coach, il a fait une sélection sélective, ont-ils dit, parce que tout le monde pensait que le coach allait sélectionner en tout cas le meilleur, parce que quand il sélectionne également les joueurs qui évoluent avec le Djoliba ou le Stade Malien de Bamako, nombreux se disent également que là, il fallait choisir le meilleur. Par exemple, tout le monde s'est présenté sur l'exemple de Félix Kamaté, un défenseur du Stade Malien de Bamako, qui n'a joué la moindre minute en match officiel depuis l'ouverture de la saison, alors que il y a des joueurs du Stade qui ont évolué avec le club depuis le mois août. Ils ont joué les éliminatoires de la compétition, de la Coupe de la Confédération. Ils ont joué également les trois matchs de la phase finale, mais malheureusement, le coach n'a pas sélectionné ces joueurs-là, mais est parti sélectionner Félix Kamaté qui n'a pas joué un match officiel. Mmh. D'autres encore, au sein de la formation de Djoliba, si, on a deux joueurs qui jouent au même poste, mais l'un est celui qui est titulaire et qui joue les phases finales de la Ligue des Champions, et l'autre qui est son remplaçant et surtout son bas, et le coach titularise celui qui est sur le, celui qui était sur le banc. En tout cas, ce sont des choix qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup énormément parler ici. C'est pourquoi après le 1-0 à Mauritanie, les gens étaient déçus. Mais en tout cas, depuis 48 heures maintenant, on voit sur le pas de la fédération qui a déjà décidé que le match se joue au stade ouvert, c'est-à-dire on va attendre d'estimer est-ce que le stade sera fermé. Moi, en tout cas, vu la mobilisation et vu le désintéressement de beaucoup de supporters, je ne pense pas que le stade sera plein, mais en tout cas, il y aura quand même des supporters qui sortiront pour aller supporter les Aigles locaux, pour les pousser à aller chercher cette victoire et la qualification.
Alors pour revenir sur l'année 2024, il y a eu Drissa, la déception du Mali qui n'a pas pu aller au-delà des quarts de finale de la CAN, et un changement d'entraîneur, une qualification brillante qui fait que le Mali sera encore une fois au chapeau 2 pour les éliminatoires, plutôt pour la CAN qui aura lieu au Maroc, et puis il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde où c'est sur courant alternatif, mon cher ami.
L'année même a été sur courant alternatif parce que quand on regarde sur un bilan d'ensemble, c'est 12 matchs pour 9 victoires, 5 nuls, 2 défaites. Donc quand on regarde et on analyse, c'est que c'est vrai, il y a eu énormément de buts marqués. Le Mali a marqué 27 buts sur l'année, en encaissant 9. Mais en tout cas, les gens sont restés sur la fin en termes de résultats concrets parce que on attendait les Aigles à aller beaucoup plus loin que les quarts de finale à la CAN. Maintenant, ça a été quart de finale. Une élimination qui est toujours, en tout cas, qui a marqué l'année des supporters maliens face à la Côte d'Ivoire, cette défaite de 2-1. Ensuite de ça, les gens ont vécu également l'effet similaire face au Ghana. En tout cas, ce sont les deux défaites qui ont marqué l'année qui ont marqué également les esprits. Après, il y a ce renouveau entamé par le nouveau sélectionneur Thompson Fitz, qui commence également à voir petit à petit l'ossature, parce que lui aussi, il avait débuté de façon difficile les éliminatoires, parce qu'il y avait ce conflit qui existait entre les joueurs et certains membres du comité exécutif de la FEMAFOOT. Mais cette fois-ci, les Aigles ont terminé l'année en beauté avec ce score de 6-0 face à l'Eswatini pour remettre les esprits en ordre en attendant, bien évidemment, l'année prochaine et les éliminatoires du mondial. En tout cas, l'espoir, elle commence à beaucoup renaître ici au sein des supporters qui estiment que après janvier, il y aura beaucoup de joueurs qui étaient absents qui vont signer leur retour. Et après, en tout cas, en masse, tout le monde attend les Aigles, en tout cas, pour remporter ces deux victoires à venir face aux Comores et face à la République centrafricaine. En attendant, le Mali, en tout cas, va connaître ses adversaires à la CAN. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne croisera pas, enfin, pour la première fois depuis 3 éditions, la Tunisie.
Parce qu'elle est dans le même chapeau.
Exactement, dans ce même chapeau. Le Mali qui avait affronté la Tunisie à la CAN d'Égypte, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Mais cette fois-ci, on verra pas la Tunisie. Peut-être que ça nous permettra également de voir encore le Mali face à d'autres adversaires, là où on va également voir le réel niveau, peut-être à partir de décembre, au niveau de la CAN, si Tom Saint-Tite pourra faire parler un cap à passer un cap à cette formation du côté du Maroc. En tout cas, c'est toutes les questions également qui sont posées ici. En attendant, les espoirs quand même sont là. Tout le monde dit, bon, avec l'arrivée de Tom Saint-Tite, avec également ce changement d'entraîneur, ça pourra amorcer une nouvelle dynamique au sein de l'équipe et redistribuer les cartes pour apporter une vraie concurrence au sein de l'équipe dans le but d'aller chercher, en tout cas, ces éliminatoires. Parce que c'est face au Comores. Si le Mali gagne le Comores, il va revenir à 4 points aujourd'hui, il va revenir à 3 points. Donc peut-être les 4 seront redistribués en attendant les 5 prochaines journées.
Alors en revanche, au JO, grosse déception pour les Aiglons.
Tout à fait. Également, ça fait partie de la page noire, de la tache noire de l'année. En tout cas, la crise cumulée également à une sélection également qui n'était pas au point, en tout cas avec le coach, le sélectionneur Aliou Badara Diallo Conti. Le Mali qui s'attendait à faire moins, à faire plus que 2004, sa dernière participation où il avait passé également les phases de poule de la compétition. Malheureusement, ce sera un tournoi avec aucune victoire, de défaite et match nul. En tout cas, le Mali qui sortira également de la même manière lors de cette compétition également par la petite porte. En tout cas, c'était un résultat qui a vraiment déçu également beaucoup de personnes ici. Ça fait également partie de cette tâche noire, il ne faut pas l'oublier. Merci, Amine, de me l'avoir appelé, en tout cas, de cette catégorie, parce que après la CAN qu'ils ont fait et qu'ils ont effectué du côté du Maroc, on attendait beaucoup plus. Après la troisième place, on attendait beaucoup plus. Pourquoi pas aller chercher cette première médaille du Mali en compétition des JO. Mais malheureusement, ça n'a pas marché vu les investissements qui ont été faits à ce niveau également.
Merci infiniment. Bonne année, cher ami. Meilleurs vœux, santé, bonheur pour Drissa Niono qui sera des nôtres dès 2025, c'est-à-dire des dimanches prochains, Inch'Allah, avec les compétitions continentales des clubs qui ne vont pas s'arrêter. Il est 11h23, si vous voulez bien, on va faire une pause pub et tout juste après, nous continuerons notre tour d'Afrique. Vous verrez, nous irons un peu partout pour faire le point sur l'année 2024, mais également pour évoquer les éliminatoires d'Ishan avec quelques surprises. Prise en perspective.
علاش دابا الوقود وين بروتيكت بلس ديال وينكسو هو احسن ما كاين في السوق؟ باختصار مع الوقود وين بروتيكت بلس الموتور كيبقى ديما نقي محمي واكثر فعاليه كيستهلك قل وكيدوم اكثر وهذا الشيء كله بنفس ثمن الوقود العادي داكشي علاش الوقود وين بروتيكت بلس اللي كاين في ستاسيونات وينكسو مخير بزاف لا مقارنه مع الوقود اللي كيكون زايد في الثمن اللي كيتسمى الاكسترا بلس وداكشي وما تنساش راه ستاسيونات ديال وينكسو كاينين في المغرب كامل وينكسو شركه مغربيه بالجوده والرخاء تهلا فيك وفيا
مباراة دورة 16 بطولة احترافية القسم الوطني الأول مباشرة على راديو مارس الجيش الملكي غادي يواجه شباب محمدية نهار الأحد مع السادية العشية بملعب بلادي بقنيطرة
هذا الماتش مباشرة على راديو مارس
Merci de votre fidélité à Radio Mars, à Mars Afrique en particulier tous les dimanches entre 11h et midi, heure marocaine, 10h et 11h GMT. Il est 11h25. On a parlé bien évidemment de surprises, on a des confirmations. Et parmi les confirmations dans ces éliminatoires du Chan, la présence de la Guinée. On ne pouvait se passer de la Guinée dans cette compétition. Chérif Aliou, bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous.
Alors après une belle victoire au match aller, confirmation au retour contre la Guinée-Bissau et la Guinée sera bien présente dans ce grand match du football du début de l'année qui concerne les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux. La force du football guinéen au niveau des clubs n'est pas, je dirais, à laisser en doute. Et c'est la preuve puisque la Guinée sera bien présente dans la compétition.
Ah oui, hein, le Sili Aprim donc s'est qualifié hier samedi en écartant l'équipe de la Guinée-Bissau hein, sur l'ensemble des rencontres. Au match aller, le score était de 4-2 pour le Sili Aprim. Au match retour, 2-1 cette fois voilà pour le Sili Aprim. Donc s'est qualifié pour le prochain Chan qui aura lieu hein, voilà dans trois pays bien évidemment. Il faut dire que c'est le retour hein, du Sili, hein, puisque le Sili avait été absent lors de la dernière édition. Et bien là, il fallait pas se rater, surtout hein, connaissant le contexte qui entoure en ce moment le football guinéen, la Guinée qui est éliminée de toute la compétition organisée par la Confédération africaine de football. Ben, il ne restait que le Chan pour essayer de sauver une année presque blanche. Et là, Souben Camara et ses poulains ont réussi donc à relever ce défi-là en qualifiant la Guinée pour le prochain Chan. La Guinée, hein, qui, il faut le rappeler, en 2020 avait terminé hein, troisième voilà, en écartant le Cameroun lors de la petite finale sur le score de 2-0. Mais voilà, la Guinée qui revient et qui espère en tout cas donner une lueur d'espoir aux supporters, voilà, aux amoureux du football guinéen, malheureusement, qui c'est de l'étang, hein, sont sevrés de football à cause de cette crise interminable au sein de la Fédération Guinéenne de football, à cause bien évidemment des résultats ternes de leur sélection au niveau de la Confédération africaine de football, à cause également du championnat guinéen qui tarde encore à démarrer. Ben là, heureusement que l'équipe A prime vient en tout cas donner un petit sourire aux amoureux du curon en Guinée.
Un sourire qui n'estompera pas la déception de ne pas voir la Guinée à la prochaine CAN. Surtout quelques mois après avoir vu la Guinée atteindre les quarts de finale de la compétition et s'installer en outsider dans cette grande fête du football africain.
Ah oui, c'est vrai. Elle a été longue, cette attente de la décision, bien évidemment, de la Confédération africaine de football pour essayer de s'assurer sur le sort de la Guinée. Hein, pendant que ce match qui a opposé la Tanzanie à la Guinée, score final 1-0 pour l'équipe tanzanienne. Il y a eu des faits de jeu que la Guinée a donc contesté et qui donc a porté une requête auprès de la Confédération africaine de football. Ben, sauf que, il y a quelques jours, la CAF a répondu à la Guinée dans un courrier où elle affirme que la requête de la Guinée sur la forme est recevable, mais sur le fond n'est pas recevable. Ben du coup, la Guinée donc n'est peut-être qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du côté du Maroc. Grosse déception donc ici en Guinée, mais pour la plupart des Guinéens, il fallait s'attendre à cela parce que la Tanzanie a mérité amplement sa victoire en s'imposant en aller et retour en prenant 6 points contre la Guinée. Ben il fallait pas s'attendre à grand chose, même si côté guinéen, notamment les autorités de la fédération estiment que la bataille n'est pas encore finie parce que la Guinée déporte l'affaire devant le TAS en espérant encore une fois se qualifier pour la CAN, mais l'espoir est infime, très infime d'ailleurs, que d'autres Guinéens pensent qu'il faut passer à autre chose, notamment préparer les prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde et se mettre au travail pour la prochaine campagne qui viendra après celle du Maroc.
Et d'ailleurs, l'espoir est aussi infime d'aller en Coupe du Monde puisque les éliminatoires n'ont pas été véritablement bien entamés par le CIL national.
C'est vrai, le CIL qui a très mal démarré sa campagne avec d'entrée deux défaites de suite. Et maintenant il y a ce match au mois de mars qui approche très très bientôt contre, je crois, l'Éthiopie, si je ne me trompe bien évidemment. Et là, les autorités veulent en tout cas tout faire pour que la Guinée puisse maintenant jouer à domicile, d'où l'accélération dans les travaux pour la finition du stade du 28 septembre. Mais là aussi, selon les techniciens, le stade ne pourra pas finir avant le mois de juin. Donc du coup, la Guinée va une nouvelle fois devoir jouer ce match en déplacement, sûrement du côté de la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment en tout cas, ce qu'on peut dire à Mid, c'est que le football guinéen va très très mal. Il est malade en tout cas.
Il est malade, mais il y a quand même un motif d'espoir quand on voit un joueur du talent de Chérou Guirassy qui a éclaboussé de sa classe l'année 2024 au point d'être parmi les trois prétendants au titre de meilleur joueur africain. C'est peut-être un lot de consolation, mais on se console comme on peut.
C'est vrai que c'est le seul footballeur aujourd'hui qui donne du boom au cœur aux Guinéens. D'ailleurs, il a été récemment reçu par le gouvernement guinéen. Le chef de l'État lui a même attribué un passeport diplomatique pour tout ce qu'il fait pour l'image de la Guinée à l'international. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment le sportif le plus en vue hors de la Guinée. Il y a aussi ces éliminatoires qui sont encore dans les esprits, avec sa belle performance contre l'Éthiopie. Il finit deuxième meilleur buteur des éliminatoires derrière Brahim Diaz, bien évidemment. Guirassy, pour l'instant, vraiment, c'est lui le porte-flambeau du football guinéen, disons même du sport guinéen, tout simplement. Et quand on parle de Guirassy, on parle forcément de la Guinée. Et bien là, je pense que c'est la seule satisfaction qu'on a pour l'instant en parlant bien sûr de football, mais également de footballeurs guinéens évoluant à l'étranger.
Des footballeurs guinéens que nous verrons au prochain CHAN dans quelques semaines. Il ne faut pas l'oublier, le CHAN ça commence le 1er février. Donc on aura toute l'occasion de parler de la préparation, de la montée en puissance du CIL national à prime et voir dans quelle mesure la Guinée va pouvoir se comporter honorablement dans une compétition dont le tirage au sort est prévu incessamment. Merci beaucoup Chérif Aliou, bonne fin d'année. Bonne fête. Merci. Et à 2025. Merci beaucoup à Chérif Aliou. On va retrouver David Eyengue du côté du Cameroun. David Eyengue qui doit certainement marmonner quelques mots de déception après la sortie de route imprévue du Cameroun face à la République centrafricaine et dire que les Camerounais avaient fait le plus dur en gagnant au match aller à l'extérieur, mais ils n'ont pas su transformer l'essai lors du match retour face à une équipe centrafricaine qui a joué sans complexe. N'est-ce pas, David ? Bonjour.
Bonjour Amine et bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars à Casablanca et à tous ceux qui nous suivent à partir des plateformes numériques à travers le monde. Le Cameroun ne sera pas au championnat d'Afrique des Nations en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya. Les Lions indomptables A' ont été éliminés par l'équipe nationale de la Centrafrique sur nos propres installations au stade Omnisport de Kwekon à Bafoussam, c'est dans l'ouest du pays. Les Centrafricains voisins avaient alors choisi de recevoir le Cameroun en Côte d'Ivoire en match aller de ce dernier tour éliminatoire du CHAN. L'équipe nationale des joueurs locaux du Cameroun avait pris une avance en battant les fauves du Bazoubangui 1-0 à Ibimpet en Côte d'Ivoire. Mais c'est une victoire qui faisait déjà douter Simplice Sow, le sélectionneur, car le buteur de ce match n'était autre que Aloïs Fouda, défenseur latéral dans cette équipe. Pour la manche retour, le sélectionneur a fait venir dans la tanière Angel Yonjo Mata, l'attaquant de 17 ans qui est encore en formation à l'élite de football by Boisson du Cameroun, le FBC, le centre qui a formé Carlos Baleba. Le jeune attaquant s'est rapidement adapté au groupe puisque c'est lui qui donne encore une avance au Cameroun en marquant le premier but de ce match retour. Le Cameroun a alors 2 buts d'avance et on se dit que le match est plié. C'était sans compter sur la résilience des joueurs de la Centrafrique dont nombreux veulent intégrer les équipes des championnats professionnels du Cameroun. Ils vont égaliser avant la pause et vont asséner le coup de grâce à la 85e minute pour remporter la partie 2-1. Le Cameroun ne participera pas donc à son 6e CHAN et plusieurs internautes attribuent cet autre échec à Samuel Eto'o, le président de la fédération. Je vous annonçais déjà la semaine dernière que la liste des Lions indomptables qui avaient fait le déplacement d'Abidjan avait été soigneusement cachée. Mais avec le match retour joué à Bafoussam, eh bien, la presse a eu droit à la feuille de match où on peut constater que le sélectionneur a aligné 3 défenseurs, dont un qui est âgé de 34 ans et qui n'a pas joué de match, le moindre match officiel depuis 9 mois. Parmi les titulaires d'hier à Bafoussam, on peut aussi remarquer les présences des joueurs comme Salgui Mbijawa et Aloïs Fouda qui sont de retour au pays après des échecs dans des aventures à l'étranger et des joueurs qui ne figurent même pas encore dans les listes des clubs de première division ici au Cameroun. Avec ce cortail explosif de manquements, il faut ajouter que tous les joueurs sélectionnés dans les clubs de Ligue 1 n'ont pas 90 minutes de match dans les jambes et ont passé 8 mois de trêve. Résultat des courses, le Cameroun est éliminé. Pour le reste, le championnat de MTN Elite One a sa 5e journée. Ce dimanche, notre Boxing Day à nous. C'était l'actualité du football camerounais pour ce dernier week-end de l'année 2024. Depuis Douala au Cameroun, je suis David Eyengenzima et je vous souhaite bonne année 2025.
Merci David Eyengenzima pour toutes ces informations. Elles sont précieuses et nous montrent l'état du football camerounais qui va au plus mal. Hein. En tout cas, le football intramuros du Cameroun, le championnat, les clubs, les joueurs locaux. La preuve, c'est que le Cameroun ne sera pas présent au prochain CHAN et vous avez vu les conditions avec des joueurs hors de forme, qui manquent de compétition, qui sont âgés. En tout cas, ça ne reflète nullement l'histoire du football camerounais. Le Cameroun a gagné la CAN, je dis bien, à 5 reprises entre 1984 et 2022. Donc ça en dit long sur le potentiel du joueur camerounais et s'en dit long sur les capacités du joueur camerounais lors des grands événements. Place à l'Afrique du Nord, place à la Tunisie avec notre ami Ahmed Adela. Bonjour Ahmed.
Bonjour cher Amine, bonjour à tous les chers auditeurs et auditrices de Radio Mars.
On va commencer par le derby tunisois où il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu.
Ni vainqueur ni vaincu avec quelques événements. Bon, ça dépasse un peu la norme parfois. Bon, le football, il y a eu du football, hein. Il y a eu un petit show, un match là où on a vu 4 buts quand même. Ça fait, je pense, depuis 2014-2015, genre, on n'a pas vu 4 buts dans un derby, si je me trompe pas. 2-2. Il y avait de l'ambiance, il y avait du jeu sur le terrain, mais il y avait quelques pépins et soucis avec les supporters qui ont été interdits de de faire entrer les éléments de les virages quoi, la banderole, le tifo, etc. Et ça a eu un impact déjà sur le match disputé hier entre le club africain et le club athlétique Bizertin, lorsque les supporters du club africain qui ont montré leur solidarité avec les supporters de l'Espérance via des communiqués sur leur page Facebook, etc. tout au long de la semaine. Et ils ont eux aussi quitté le virage lors de la mi-temps et ils ont laissé une banderole appelant les supporters de tous les clubs à s'unir. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, je n'étais pas au stade, mais apparemment ça va faire encore couler de l'encre.
Ça va faire couler beaucoup d'encre, mais en tous les cas, le club africain se porte beaucoup mieux que lors des précédentes années. Est-ce qu'il y a un effet David Bettoni, l'ex-adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, et celui qui faisait beaucoup de choses aux côtés de Zidane lors de son passage comme entraîneur à Madrid?
Je pense que avant de parler de l'effet Bettoni, il y a l'effet administratif. Parce que le club africain a maintenant un président du club, il n'y a pas un comité provisoire, il y a un président qui préside le club, il y a de l'argent, il y a un sponsor américain, il y a des affaires et dossiers qui ont été clos, il y a une administration qui gère très très bien les affaires, les dettes, etc. Je pense que avant Bettoni même, il y a l'administration qui est en train de faire un excellent job, un très bon travail, comme il se doit, quoi. Après, en deuxième lieu, oui, Bettoni, mais il y a aussi une qualité de joueur qui a été recrutée. Il y a Philippe Kinzambé, le Congolais, qui était à deux pas du Raja. Il y a Bassem Straff, bon, c'est sa deuxième saison. Il y a plusieurs joueurs. Il y a l'axial libyen Ali Youssef. Il y a beaucoup de changements au niveau de l'effectif qui a conduit à ces bons résultats. Après, pour Bettoni, peut-être le seul point d'interrogation pour lui, c'est que il y a beaucoup de changements entre un match et un autre. C'est sa méthode peut-être. Lui, quand tu lui poses la question, je lui ai posé la question à deux ou trois reprises lors de mes couvertures de match, il dit que voilà, moi j'ai 26 joueurs, 26 bons joueurs, ils ont tous le droit de jouer et ça dépend de l'adversaire. Après, est-ce que ça aura un impact sur les automatismes, etc. Je suis pas un technicien pour juger, mais je pense que jusque-là, il s'en sort bien. Il est premier au tableau de classement avec 28 points, même s'il reste un choc aujourd'hui entre le deuxième et le troisième, l'USMO, qui a 27 points, et le Stade tunisien, troisième. Donc, je pense que le résultat est là, le résultat suit. Est-ce que c'est l'effet de Bettoni ou pas? Je pense que c'est tout un monde qui a conduit à ce résultat. Après, Bettoni lui-même, il a toujours dit que voilà, moi, je vise pas le championnat, je vise une place en Champions League d'Afrique.
Alors, je pense, est-ce que l'info est vraie concernant l'arrivée du préparateur physique, l'ex-préparateur physique de l'équipe de France, qui était avec Zidane justement, Grégory Dupont, ou bien c'est juste une rumeur?
Non, il est là.
Il est à Tunis.
Mais il n'est pas un préparateur physique, en fait. C'est un comité de projet, un projet qui a été lancé par le club africain pour, en fait, c'est comme une direction technique, mais il fait partie du groupe qui gère les jeunes, la stratégie de jeu et surtout l'analyse des jeux, parce que Grégory Dupont, il a deux boîtes qui est spécialisée dans l'analyse du jeu, les blessures, etc. Il était même champion du monde, hein, avec l'équipe de France en 2000.
Deschamps, tout à fait. Alors on va faire le... Il y a une info qui a circulé, je ne sais pas s'il est vrai, elle fait partie du mercato, c'est que Seif Din Djezieri intéresserait le Wydad de Casablanca dans l'optique de la Coupe du Monde des clubs. Vrai ou faux?
On n'a pas vraiment la confirmation jusque-là, on est en train de chercher l'info, peut-être qu'on l'aura d'ici quelques heures, je t'envoie ça bien sûr, bien évidemment, comme d'habitude, quand ça concerne un club marocain, mais tout ce que je peux dire, que Saïf a un vrai problème avec son club actuel, le Zamalek, les Égyptiens de Zamalek, parce que il n'a pas été payé depuis 8 mois, il n'a rien dit depuis 8 mois, il n'a pas déposé de plainte, il a juste envoyé des avertissements à son club. Sa situation est un peu compliquée avec le Zamalek, c'est flou, mais honnêtement, Je pense que ça sera des 50-50. Ça sera pas vraiment. Déjà son départ de Zamalek, c'est un peu compliqué parce que les supporters, le club, peut-être ils vont le retenir. Mais partir au Wydad, je pense que ça serait des 50-50. On va quand même vérifier l'information.
Alors pour faire le point sur l'année 2024, année décevante pour les Aigles de Carthage avec la CAN. En revanche, ça va beaucoup mieux dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Comment expliquer ce paradoxe?
On en a déjà parlé à maintes reprises. L'année a très mal commencé pour la sélection tunisienne, avec une élimination dès le premier tour lors de la CAN disputée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et dans les villes de la Côte d'Ivoire. Après, il n'y a pas que la sélection A, hein, il y a aussi la sélection U20, la sélection U17. Il y a des déceptions un peu partout. La situation, si le club africain a réussi à surmonter la pente et arriver jusqu'à la première place au championnat, c'est parce qu'il y a une aisance financière et il y a une visibilité administrative. C'est le cas contraire pour la Fédération tunisienne, le football tunisien. Il n'y a pas une aisance financière. On est à moins 3,5 millions d'euros pour le bilan juin 2023, juin 2024. Donc ça va arriver jusqu'à 5,5 à la fin de l'année, certainement. Bilan négatif, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas une administration, il y a un comité de normalisation. On attend les élections que certains disent qu'ils n'auront pas lieu, peut-être à cause d'une nouvelle institution, un nouvel statut des clubs, etc., des institutions sportives. Donc, c'est une déception à tous les niveaux, administratifs, sportifs, footballistiques, résultats, tout. Par contre, si on regarde l'année 2024, c'est peut-être nos athlètes qui ont hissé le drapeau tunisien aux Jeux Olympiques, oui, 2024 et le Jeu Paralympique 2024.
Alors justement, c'est l'occasion de mettre en valeur ces champions, Ahmed, parce que finalement, ils sauvent un peu l'honneur du sport tunisien.
Exactement. Il faut pas oublier Firas Gattousi, Firas Ferjen Iskrim, Khalil Jandoub Taekwondo, nos athlètes aux Jeux Paralympiques, Raoua Tlili et sa bande, j'appelle toujours comme ça Raoua et sa bande, ils ont quand même offert ce petit sourire aux Tunisiens sur le plan sportif, parce que vraiment on en avait vraiment besoin.
On va finir avec cette Fédération tunisienne de football. C'est l'année ou jamais pour retrouver une certaine normalité. Tu nous as dit il y a quelques instants que les élections pourraient ne pas avoir lieu, mais il faudrait quand même rentrer dans la normalité. Qui pourrait être la tête visible du football tunisien? Est-ce qu'il y a des noms qui commencent à bruisser au fond, ou bien il y a toujours le flou concernant celui qui pourrait devenir le faux Elkhadja du football tunisien?
En fait, tout est flou. Il y avait quatre noms plutôt. Il y avait Tarek Ziyeb, il y avait Ali Hafsi, ancien président de la Fédération tunisienne de football. Il y a aussi Ziyad Lemseni, son nom qui circule toujours. Il y a aussi Sabr Bouataï, un ancien dirigeant du club, du fameux club, certainement tu vas le reconnaître, Hilal Cheb. Oui.
Zaki doit s'en souvenir, hein.
Oui, voilà. Donc, hier, Ali Hafsi Jeddi a publié un communiqué sur sa page Facebook officielle, expliquant que il n'est pas concerné par les élections de la Fédération du football tunisien, alors que c'est surprenant parce que il était pressenti depuis plusieurs mois déjà, et il a l'aval des clubs amateurs qui votent. Ça, c'est très important. Après, Tarek Ziyeb, par le biais d'un de ses amis proches au Qatar, c'est son ami qui avait publié le communiqué disant que voilà, Tarek n'est pas concerné. Tarek a peut-être d'autres pépins. Peut-être qu'il a peut-être, hein, je sais pas, j'ai pas la confirmation, j'ai pas la totalité de l'information, mais peut-être que il voudrait être le représentant, ou il voudrait avoir l'aval du ministère. Voilà, donc c'est peut-être ça. On n'a pas vraiment la confirmation, surtout que on ne sait même pas s'il est vraiment bon. Je veux pas dire le commentaire, mais voilà, il veut être le candidat de ministère. Il veut avoir l'aval de ministère. Après, comme je l'avais précisé, il y a ce fameux règlement, cette nouvelle loi, Qanoun l'Hayek Riyadhiya, qui pourrait tout changer, parce que la FIFA, dans ses discussions avec l'ancien ministre du sport, des sports, Kamel Deghiche, il les a promis de homologuer et mettre en circulation ce règlement, cette nouvelle loi, ce nouveau statut, au plus tard mi-décembre, fin décembre. Donc la FIFA avait choisi de d'organiser les élections en janvier. Pourquoi ? Parce que en fait, dans ce nouveau statut, il y a beaucoup de changements, y compris le texte qui règle comment se font les élections. Est-ce que les votes sont par liste ou par personne ? Donc là, les votes sont par liste. Dans le nouveau statut, le règlement dit que les votes doivent être par personne. La FIFA, bien sûr, n'a qu'à obéir les règlements de l'État. Après, je pense qu'on aura peut-être un joker d'ici le 25 janvier, sachant que les candidatures sont ouvertes depuis le 26 décembre. Il n'y a aucune candidature qui a été déposée.
Alors pour terminer, mention très bien pour l'Espérance qui était en finale de la Ligue des Champions. C'est un peu l'arbre qui a caché la forêt.
Bon, mention très bien pour l'Espérance. Tu parles du bilan de l'année.
Oui, 2024, ils ont été en finale de la Champions League.
Oui, jusqu'au mois de janvier, rien n'allait à l'Espérance. Il y avait des changements d'entraîneur, Mouine Chahbani, qui fait les beaux jours de Berkane ce jour-ci. Puis, il y avait Tarak Thabet. L'Espérance a quand même été éliminée au bout de, je sais pas comment l'expliquer, mais pouvait passer face au Wydad, mais elle a été éliminée à la Super League. Après, en janvier, l'entraîneur portugais Miguel Cardoso est arrivé. Il y avait beaucoup de changements, il y avait pas vraiment de grandes recrues, mais l'Espérance est parvenue quand même à arracher sa qualification à la Coupe du Monde des clubs et à la finale de la Ligue des Champions qui s'est jouée sur un but de magie, disons-le, qui pouvait être évité. Après, l'Espérance, là, en phase de reconstruction, avec un nouvel entraîneur, Lauricio Riguicanf, l'entraîneur... Qui vient de la Roumanie, avec des recrutements de masse, avec des grands noms, Youssef Blail, etc. Je pense que l'Espérance va refaire le même coup que l'année passée et va au moins atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions.
Merci infiniment Ahmed Adela pour toutes ces explications. Ça nous a permis de faire un large tour d'horizon du football tunisien et du sport tunisien en général. Bonne année, meilleurs vœux. Et à l'année prochaine, c'est-à-dire dimanche prochain. Il est 11h49, on va finir par une dernière escale du côté de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il y avait un match comptant pour les éliminatoires du CHAN entre la RDC et le Tchad. Et les Léopards A' ont atteint leur objectif. Ils viseront un troisième titre en Afrique de l'Est après ceux gagnés en 2009 et 2016. N'est-ce pas Michel Thobo ? Bonjour.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci encore de me donner ce petit moment pour réagir par rapport à l'actualité sportive ici chez nous, en République démocratique du Congo. On parle football avec la fin des éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations qui va se disputer l'année prochaine au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, avec la qualification des Léopards locaux. Donc 3-1, ils se sont imposés lors du match retour ici à Kinshasa, sans réelle difficulté quand même, bien que les Tchadiens ont tenté dans la mesure du possible de faire douter cette sélection nationale congolaise. Il y avait un but partout à l'aller, à Abidjan il y a une semaine où les Tchadiens avaient monté quand même un bon visage. Je vous l'avais dit lors de mon petit reportage que je vous avais fait pendant l'émission, mais lors de cette explication ici sur place à Kinshasa, les Léopards se sont très bien comportés. Ils ont réussi à ouvrir le score comme c'était le cas au match d'aller, hein, par voilà le feu follet du tout-puissant Mazembe Oscar Kabuit. Ils ont pris l'avantage dès la 10e minute. Quelques minutes plus tard, hein, les Tchadiens sont revenus à la marque et les deux équipes sont allées à la mi-temps avec ce score de 1-1, hein, faisant un tout petit peu, on va dire, voilà, régner le doute dans la tête de Congolais. Mais heureusement, Otis Ngoma est revenu avec de nouvelles intentions sur le terrain avec ses protégés. Hein, voilà. Ils ont réussi à prendre l'avantage de la 53e minute et quelques minutes plus tard, le troisième but a été marqué et le reste du match a été géré avec beaucoup de munitions, hein, pour permettre justement à cette sélection de se qualifier, hein, pour la troisième fois consécutive après le Cameroun et l'Algérie. Mais maintenant, la qualification a été acquise. Il faut maintenant tenter justement de se racheter comparativement à la dernière édition où les Léopards sont sortis avec 0 points, voilà, c'est, disons avec 2 points mais sans but marqué, et éliminés au premier tour. C'était la toute première fois de l'histoire de ce championnat d'Afrique des Nations que les Léopards étaient éliminés au premier tour. Hein. On le rappelle, la Coupe de Mansion du Congo est quand même double vainqueur de cette compétition lors de la première édition en Côte d'Ivoire en 2009 et puis en 2016 au Rwanda avec Florent Ibenge. Donc voilà, et c'était quand même assez honteux, disons-les comme ça, hein, que les Léopards se fassent éliminer dans cette compétition où ils sont vainqueurs à 2 reprises au premier tour. Voilà, il y a eu beaucoup de choses, hein, qui se sont passées lors de cette compétition. Le sélectionneur Otis Ngoma, qui était sur la sellette, même après la compétition il y a 2 ans en Algérie. Et voilà, la Fédération Congolaise de Football Association lui a refait confiance. Voilà, et il a réussi une fois de plus à qualifier cette équipe, mais il est toujours attendu au tournant, voilà, parce que il faut corriger les erreurs lors de la dernière édition pour l'édition prochaine. Donc il faut un minimum en tout cas pour sortir du premier tour, hein, pour tenter d'aller chercher une place avec honneur demi-finale ou finale. Mais ce qui est sûr, Otis Ngoma, qui était sur la sellette, il va plus résister si et seulement si voilà, l'équipe arrive encore à faire des contre-performances comme lors de la dernière édition. Là, il est en train de souffler un tout petit peu avec l'ensemble de son staff technique. Voilà, l'équipe a été refaite, hein, complètement même, hein, on va le dire comme ça. Il y a quelques pions seulement qui ont disputé la dernière édition en Algérie qui sont encore là. Et là, on va voir dans la mesure du possible qu'est-ce que les sélectionneurs vont nous concocter pour la compétition. Ça arrive, hein, c'est dans pas longtemps. C'est déjà pour le mois de février la prochaine. Donc, il n'aura pas assez de temps, en tout cas, voilà, pour cogiter. Voilà, donc, mais il a déjà, on va dire, un noyau assez fort d'une trentaine de joueurs évoluent ainsi sur place au pays. Donc il peut, dans la mesure du possible, voir qui il va amener. Et s'il n'y a pas de blessures également, parce que le championnat congolais est en train de se jouer également. Donc on verra, dans la mesure du possible, qu'est-ce que le sélectionneur national Otis Ngoma et ses protégés vont nous faire lors de cette compétition. Voilà, Amine Birouk, hein, tout ce que j'avais à vous dire par rapport justement à cette qualification dès le point d'appui des moitiés congolais, hein, devant les Sawa du Tchad. On se retrouvera certainement le samedi prochain ou le dimanche prochain. Voilà, toujours avec.
Ah, c'est toujours dimanche, Michel. Plaisir. C'est toujours
merci,
dimanche.
Bonne continuation.
Bonne continuation, Michel. D'ailleurs, on se retrouve très très vite parce que la semaine prochaine, il y a Esfar Maniema, donc comptant pour la Champions League samedi soir. Donc, il y aura tout le temps de revenir sur ce match et de le débriefer, tout comme il faudra débriefer la prochaine prestation du TP Mazembe en Champions League. Voilà, bonne année, meilleurs vœux, faisons la fête, faisons-le dans l'harmonie et la paix. On se retrouve dans Mars Africa en 2025. Petit clin d'œil, dimanche prochain, même heure, même endroit. Merci à Bruno, qui était à la réalisation dans quelques instants. C'est Youssef Mansouri qui prendra le relais pour l'émission 100%.